Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission, la dernière de l'année. Et je vais vous dire, et non la moindre, je vous souhaite à tous les auditeurs une bonne année 2021. La 2020 n'a pas été facile, on le sait, mais on souhaite du meilleur et on reste positif. Et je souhaite une bonne année à toute l'équipe de Cube également. Et dans cette émission, justement, on va être très positif. Il y a des affaires un peu négatives, je vous en reparlerai en début d'émission, mais au cours de l'émission, là, on revient avec une entrevue que j'avais faite avec Mesmer, celui qui a le mental, qui peut hypnotiser, vous le connaissez, cet artiste, et ça peut servir en début d'année, parce qu'il va nous parler de cette force-là du mental, comment on peut l'utiliser à son avantage, sans jamais en abuser sur les autres, parce qu'il y a un pouvoir de convaincre également, hein, quand on connaît un petit peu comment jouer avec le subconscient. Et en fin d'émission aussi, Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance, qui vient nous donner des trucs, comment prendre les bonnes résolutions et surtout comment les tenir. Et aussi, on revient sur des bonnes nouvelles de 2020. Donc, c'est Raphaël Lavoie qui vient nous parler justement 10 nouvelles positives à retenir en 2020. 26 mots présumés, une année inoubliable. Il y a aussi 20-20 en images. Et on parle également des voyages. On revient là-dessus avec Maître Marianne Plamondon, à savoir si l'employeur est obligé de donner des vacances pour notre quarantaine quand on revient de voyage. Et pour commencer, je voulais vous parler de cette nouvelle qui est assez troublante pour ceux qui l'ont lu dans le journal. C'est un article de Jérémy Bernier, journaliste québécois. Et là, on se rend compte que le Québec pourrait éventuellement devoir faire des choix déchirants sur le traitement des maladies dans les unités de soins intensifs si la situation devait empirer dans les hôpitaux. Imaginez un Québec où est-ce qu'on devait choisir qui on soigne. Et on a vu ça en Italie, on se rappelle. Je le sais, beaucoup vont dire, bon, tu comptes des histoires d'horreur, ça arrivera pas. Mais on en parle. Il y a des experts qui disent qu'il y a une possibilité. Ça s'est vu dans d'autres pays. Est-ce qu'on veut vivre ça au Québec? Non, jamais. Ça laisserait des séquelles assez terribles. Parce que juridiquement parlant, ça amène tout un débat à savoir est-ce qu'on laisse mourir une personne pour en soigner une autre? Et on parle d'un critère de longévité, de vie expectative. Ça veut dire de dire, bon, ce que ça veut dire en fait, c'est si t'es plus jeune, plus en santé, ben on va te sauver au lieu de sauver quelqu'un qui est plus âgé parce qu'il y a moins d'années devant lui. Mais ce critère-là, pour moi, juridiquement parlant, ça tiendrait pas la route. C'est assez discriminatoire sur l'âge, assez clairement. Est-ce que l'urgence sanitaire et tous les grands principes de santé qui passent avant tout tiendraient? Je suis pas sûr. Je pense qu'à quelque part, on veut pas se rendre là parce que tout ce qui est des droits et libertés protégés par la Charte, on le sait, hein, c'est le droit à la vie, le droit à la sécurité, le consentement aux soins qui vient avec l'obligation de donner des soins. Donc, je pense pas que ce soit qu'un critère qui tiendrait la route. C'est plus le premier arrivé qui va être soigné parce que tout le monde a ce devoir-là de sauver des vies. Et là, s'il y a un embourbement, je suis pas sûr qu'on va dire, toi, on te laisse de côté et toi, on te soigne. En tout cas, juridiquement parlant, ça accroche. On va en parler dans quelques instants un peu plus en profondeur avec Maître Frédéric Bérard, qui est docteur en droit, et on va analyser tout ça. Mais moi, pour mon analyse, je verrais ça difficile. Et je vois aussi un gros problème avec la responsabilité des médecins. Le médecin qui a un devoir d'obligation selon la loi. Pas de résultat. Si quelqu'un meurt suite à ses soins, il est pas responsable. Il a un devoir de prendre tous les moyens pour sauver une vie. Donc, imaginez, il décide de pas soigner quelqu'un. Pas sûr que les médecins vont être d'accord de faire ça. Et on sait qu'ils pourraient engager, ils ont le serment d'Hippocrate, ils pourraient engager sa responsabilité là-dessus. Et là, il y a des gens qui vont plus loin. Il y a tout le débat de dire, hey, si ça arrivait, ben ceux, les covidios, les récalcitrants ou ceux qui sont pas tout le temps, ils s'en rendent pas tout le temps compte, mais ils suivent pas les règles sanitaires, qui ont eu des contraventions, qui ont été des délinquants de la COVID, qui ont voyagé, ils ont pas respecté une quarantaine. Mais si ces gens-là se retrouvent aux soins intensifs, ben, il y en a même qui voulaient leur enlever leur carte d'assurance maladie. Mais certains disent qu'ils pourraient justement ne pas être priorisés. Encore une fois, légalement parlant, ça tiendrait pas la route. Tu peux pas décider de dire, ben, tu as eu une contravention, donc tu as moins de droits que quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est tout qu'un débat, c'est du droit nouveau. On analyse ça on n'a pas le choix d'en parler. Puis si ça peut conscientiser des gens à ce que cette histoire d'horreur se réalise pas, ben tant mieux. Et tout de suite, après la pause, j'en parle à Frédéric Bérard.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Est-ce qu'on pourrait se rendre au point de rupture dans les soins de santé? On ne souhaite pas ça, évidemment. C'est une histoire d'horreur qu'on ne veut pas qu'il se réalise. Comprenez bien ça, mais on n'a pas le choix d'en parler. Et du côté judiciaire, il y a beaucoup de questionnements si ça devait arriver. Je vous rappelle, j'en ai parlé avant la pause, c'est de savoir si on venait dans un embourbement suite au nombre de cas qui augmenterait là, démesurément et qu'on devait choisir entre soigner une personne et en laisser mourir une autre, qu'est-ce qui arriverait juridiquement parlant? Est-ce que le critère de nombre d'années de vie qui reste pourrait tenir la cour devant les tribunaux? Est-ce que les médecins pourraient être poursuivis? Est-ce qu'il y aurait des injonctions des familles pour stopper tout ça? Ben, on en parle avec un analyste judiciaire, Maître Frédéric Bérard et docteur en droit. Bonjour, Frédéric.
Bonjour, Maître.
Ça va bien?
Ça va, c'est le 31.
Ah ben bonne année en passant, on va commencer avec les bonne année 2021.
Ben oui, même chose à toi et à tous tes auditeurs et auditrices qui sont de plus en plus nombreux, je le sens.
Oui, au moins une couple de millions. Désolé, le 31, je suis arrivé avec un sujet assez sérieux. Mais je voulais vraiment, parce que toi, en tant que constitutionnaliste aussi, j'ai des sérieuses questions sur cette histoire de choisir de soigner des gens en lien avec notre Constitution et la Charte des droits. Comment tu vois ça?
Ben, c'est sûr que là, on est encore, comme tu le disais, dans l'hypothétique. On espère, ben franchement, ne pas se rendre là. Mais je suis content que tu suggères cette réflexion-là, parce que c'est quand même peut-être idéal, optimal de faire, justement, de tenir la discussion avant qu'il ne soit trop tard, si je peux dire. On répare la clôture quand il fait beau et non pas quand il pleut. Cela dit, tu vois, quand tu m'as envoyé ça, ou quand Hugo, ton recherchiste, m'a envoyé ça hier plus tôt, j'ai fait, ça c'est la question qui coûte cher. Parce qu'on n'a pas de jurisprudence, hein, évidemment, puis heureusement qu'on n'en a pas, ça veut dire que c'est jamais posé, cette question-là ne s'est jamais posée au préalable. C'est certain qu'on devrait faire référence à l'amplitude de l'article 7 de la Charte canadienne qui protège le droit à la vie, la liberté et la sécurité. Donc, c'est certain qu'ici, on serait dans une question à tout le moins de droit à la vie. Ben, en fait, les trois s'appliqueraient parce que le droit à la sécurité, c'est quoi? Ben, c'est ce qui a été, c'est ce qu'on a fait valoir dans l'arrêt, dans les arrêts Morgan Taylor, on s'en souvient, hein, sur les questions d'avortement.
Oui.
Est-ce que la femme peut se faire avorter si sa sécurité physique ou psychologique est en danger? Si elle ne se fait pas, si elle ne peut pas se faire avorter, dans tous les cas, est-ce que ça brime sa sécurité? Donc, dans ce cas-ci, il y a ce volet-là, de toute évidence. Et le droit à la vie au sens fort du terme aussi, je pense que quelqu'un pourrait très bien dire, ben, je suis la personne sacrifiée ici. Or, la charte me permet, me garantit ce droit à la vie-là. Si vous ne m'apportez pas les soins en question, ben, mon droit à la vie et donc mon droit à la sécurité sera de toute évidence violé. Et ça, ça impose une obligation qu'on dit positive de la part de l'État. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, ou peut-être le gouvernement du Canada aussi. Une obligation positive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas seulement que l'État ne peut pas violer un droit, c'est que l'État doit agir pour ne pas violer le droit. Et là, dans ce cas-ci, ce serait probablement d'assurer des soins. Une fois qu'on a dit ça, par contre, et c'est pour ça que la question que tu poses est absolument intéressante en théorie, puis j'espère qu'on en restera en théorie, on s'entend, c'est que même si une cour disait « vous allez soigner tout le monde », ben là, si le gouvernement, le ministère de la Santé, autres, ben, on vient de vous dire que ça sera pas possible. On est en pandémie, puis il y a, je dis n'importe quoi, mais il y a 15-20% des gens qu'on ne pourra pas traiter, qu'on ne pourra pas soigner. Alors, vous pouvez ordonner ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, en d'autres termes, la réflexion que tu amènes pose une limite, si je peux dire, ou en fait a comme limite l'état de droit, dans un sens.
Parce que même c'est le choix, c'est pas qu'il soit débordé puis qu'il en échappe, excuse l'expression, c'est de dire, OK, il y a un protocole et on choisit. Ça, je veux dire, ça doit être attaquable. J'ai de la difficulté avec ça.
Et on s'entend que le tribunal dirait, moi, en tout cas, on est dans l'hypothétique encore une fois,
Je te dispense de toute responsabilité, sous toute réserve, sans préjudice. Oui. effectivement, là, on fait une analyse. Là.
Et donc, même si le tribunal dit soigner tout le monde, parce que tout le monde a le droit à la vie, là, t'as pas moins droit à la vie quand t'as 90 ans que quand t'en as 22. T'as pas moins droit à la vie quand t'es malade que quand t'es en pleine forme. Je veux dire, c'est un droit qui est inaliénable, qui est universel.
Parce que c'est de la discrimination. Sur l'âge et sur la condition physique?
Ben absolument. Ça, c'est l'article 15 de la Charte canadienne, notamment. L'article 10 de la Charte québécoise qui empêche cette discrimination-là sur des bases comme la race, le sexe, la religion, l'âge. Et là, ici, clairement, que ce serait probablement une question d'âge. Dans la Charte québécoise, on parle aussi de conditions médicales. Ça a été interprété de cette façon-là, en Charte canadienne également. Donc, ça serait quoi le choix que l'État québécois frais, moi, je te garantis que j'aimerais pas être à la place d'un ministre de la Santé qui a à effectuer ce choix-là sous recommandation de la santé publique. Mais de toute évidence, les risques que ce soit une discrimination basée soit sur l'âge, soit sur la condition médicale sont énormes là, par la force des choses.
Ben oui, puis qu'est-ce que tu penses d'une loterie? Il y en a qui parlent de dire, bon, ça va être un tir au sort.
Ben, écoute, rendu, c'est quand même fantastique qu'on ait à se poser ces questions-là.
C'est ça. On n'aime pas, là.
Mais très sérieusement, c'est effrayant ce que je vais dire là, mais la beauté, entre guillemets, d'une loterie, entre guillemets, ce serait d'éviter une discrimination planifiée.
Ouais.
Mais c'est atroce.
Discrimination pareil. qui donne. Puis là, c'est ça le problème, c'est que ça donne comme une sorte de discrétion dont les barèmes, je sais pas s'ils vont être bien définis, là. C'est dangereux. Là.
Ben oui, puis en fait, la morale de l'histoire, bon, c'est sûr, mieux vaut prévenir que guérir, là. C'est un bel aphorisme que je viens de dire là, mais c'est parce que c'est sérieux, hein. Pour ceux qui ne croient pas encore qu'on est en pleine pandémie, arrêtez de déconner, là. On est rendu au stade où on se pose ces questions-là et on le savait dès mars et avril l'année dernière, quand on était un peu pris de court, surtout au Québec notamment, on s'est dit combien qu'on a de places disponibles. Et moi, je me rappelle que cette réflexion-là avait été soulevée rapidement. On est passé par-dessus, ça n'a pas été trop long, mais on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on fait si on manque de place? Si on a X machines d'oxygène ou je ne sais trop comment ça s'appelle exactement, on fait quoi?
D'oxygène, puis ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est rendu là, c'est plus seulement parler de la COVID, parce que ça peut être un choix sur quelqu'un qui doit être soigné pour d'autres pathologies, là, d'autres maladies. Oui. Et là, dire, ben, un jeune en COVID, on le soigne, on s'en occupe, puis quelqu'un de plus vieux a un cancer ou je sais pas qu'est-ce qui est urgent, là, mais peut-être un arrêt cardiaque, puis on le laisse aller, tu sais, je sais pas. Ça peut toucher beaucoup plus large que la COVID.
C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça a été démontré que la plupart des morts en rapport à la COVID, ces personnes-là, malheureusement, avaient déjà une pathologie afférente en quelque sorte, là. Pas nécessairement un cancer, mais par exemple une insuffisance cardiaque, bon, des trucs du genre. Et là, ça vient encore davantage compliquer l'affaire, parce que là, on tombe dans la philosophie éthique à fond la caisse. Il pourrait y avoir des séminaires de doctorat là-dessus, à se gratter la tête des 45 heures avec un travail de session à 75 pages. Mais je pense pas qu'on a le temps de se rendre là. Mais on sortirait les Platons, les Aristote et compagnie. Puis qui on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie la personne âgée qui a un cancer? Ou le jeune de 22 ans? Il y en a qui vont dire, ben, la réponse est évidente. Peut-être, mais moi, j'aime bien franchement, là, je me sens incapable moralement d'avoir à trancher ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est que juridiquement, quand bien même que la Cour exige de soigner tout le monde, s'il y a un problème de ressources, ça sera une outrage au tribunal, puis c'est ça. Et si la Cour a elle-même à faire le choix que je ne veux pas faire ce matin, ben, je te garantis que j'aimerais pas être dans les souliers de monsieur ou madame la juge ou, évidemment, ultimement, la Cour suprême. Et tout ça se rendrait fast track, c'est-à-dire on s'entend là avec des procédures absolument allégées pour aller le plus vite possible, parce qu'évidemment le temps étant ici la principale préoccupation en quelque sorte.
Ben oui. Et puis en collatéral, on assisterait à un problème d'accès à la justice. Ceux qui ont de l'argent pourraient faire une requête et sauver leurs proches. Là, il serait pas long qu'il aurait peut-être une injonction disant qu'ils doivent maintenir les soins. La personne qui a moins d'argent, ben non, c'est fini. C'est quelque chose.
Tu me fais penser, quand je parlais d'avortement à Morgan Taylor, mais les gens se rappellent certainement de l'affaire de Degg contre Tremblay, Chantal Degg, qui voulait se faire avorter et que son ex-conjoint, Jean-Guy Tremblay, lui avait plaqué une injonction en cour supérieure. Et tout ça s'était rendu en cour suprême. Il avait fait sortir les juges de la cour suprême de leurs vacances d'été en juillet. Et la première journée, et là, on s'entend que tout ça, ils ont procédé très, très, très vite là, pour des raisons évidentes. La femme est enceinte. Ça arrive à un moment donné où la question va devenir théorique. Et la première journée des auditions, l'avocate de Degg, donc Chantal Degg, la femme, dit, juste pour vous dire, monsieur, madame les juges, malheureusement, vous êtes venu ici un peu pour rien ce matin. Ma cliente s'est fait avorter hier à Boston. Alors, merci.
C'est ça, c'était fait. Pendant qu'il était à la Cour suprême.
C'est ça. Les juges ont décidé de rendre quand même la décision, parce que même si c'était théorique dans ce cas-ci, on savait que ça serait utile pour le futur. Alors, ça me fait penser à ça, parce qu'il y en a plusieurs, les plus riches, qui enverraient possiblement leurs proches se faire soigner, peut-être aux États-Unis, si une telle chose était possible.
Oui, j'imagine.
Le problème, c'est qu'aux États-Unis aussi, sont un peu pas mal dans le trouble, là, parce qu'une pandémie a ça de particulier, c'est qu'elle est mondiale par définition.
Ben oui, puis on sait pas le retour des fêtes, c'est la crainte de tout le monde. Hey, on va aller dans encore plus spéculatif, là, puis on va peut-être choquer un peu de monde, là, mais il y en a, qui disent que même, qui sont plus drastiques, qui disent que quelqu'un qui a reçu une contravention COVID, qui a pas respecté une quarantaine, les délinquants de la COVID pourraient... il y en a qui veulent leur enlever la carte d'assurance maladie et qui disent aussi qu'ils pourraient passer en dernier si justement il y a une abondance de cas. Comment tu vois ça?
Cette question difficile. Moi, j'ai de la difficulté avec ce genre de mesures-là. Je pense pas que le manque de l'apathie soit une solution. Cela dit, avoir trop personnes en fait agir de la façon dont ils agissent actuellement, je te dirais que même moi là, qui est plutôt assez relax là, avec les mesures du genre, là, je commence moi aussi à me dire là, si le message passe pas, va falloir que ça rentre dans le couteau d'une manière ou de l'autre, parce que vous avez à peine dur. Écoute, moi je fais des vidéos là-dessus pour expliquer les droits des gens en matière de pandémie. Non, t'as pas le droit de fêter Noël, c'est pas un droit constitutionnel, bon, des trucs du genre. Et puis il y en a encore une tonne qui nie le fait qu'on est en pandémie puis qu'il y a des morts attachées à ça. Je veux dire, écoute, on est rendu là, au mois de janvier, dans quelques heures. Ça va faire bientôt un an. Vous niez encore ça. Alors, tu sais, à un moment donné, tu as le goût de dire, bon, ben écoute, s'il y a rien qui rentre autrement, on va y aller avec la méthode forte. Mais au final, est-ce qu'on y gagnerait vraiment? Est-ce que ça serait pas encore davantage un bordel bureaucratique pour faire
ça? Ben oui. Juridiquement parlant, ça serait on peut pas, ça serait discriminé, je sais pas de quelle forme. On peut pas dire toi ben, t'as des mœurs, t'as des tickets de stationnement, tu vois au moins que je veux pas mauvaise comparaison, mais tu sais, tu peux pas te servir de ces tickets-là pour dire que quelqu'un est pas bon, là.
Ben ça, écoute, ça reviendrait à la même question qu'on a posée. La personne ici plaiderait sûrement son droit à la liberté, la sécurité, à la vie. Et là, ça va être aux tribunaux de déterminer ce qu'il en est. Donc, est-ce que l'État pourrait forcer quelqu'un à payer pour ses soins de santé si elle a fait le bozo en niant la pandémie puis en n'étant pas respectueuse des règles sanitaires? Encore là, aimerais-tu être le juge qui a rendu cette décision-là? Moi, je sais pas.
C'est ça.
C'est pas l'impression parce que je suis capable, moi.
Payer, c'est une chose. Paye pour, bon, il s'endetterait. Mais de pas le soigner parce que il y a d'autres gens à soigner. Et là, non, c'est sûr que juridiquement parlant, ça tiendrait jamais à route. Donc, à ceux qui pensent ça. Ouais. C'est certain. Et puis, là-dedans aussi, t'as les pauvres médecins. Parce qu'ils ont un devoir pas une obligation, mais je veux dire, pas de résultat de guérir le monde, mais de prendre des moyens. Eux, ils seraient tout de suite en contravention avec tous les serments d'Hippocrate.
Moi, je te garantis que le Collège des médecins, là, si c'est pas déjà fait, ça va se faire bientôt si cette idée-là continue de faire son chemin. Le Collège des médecins va aller s'asseoir avec François Legault, Dubé et compagnie. Et croyez-moi que le Collège des médecins, si vous cherchez un lobby qui est puissant, là, c'est celui-là. Regardez toutes les augmentations. Je pense qu'ils ont eu 85% d'augmentation en quelques années là, sous le gouvernement Couillard. Ils sont excessivement puissants. Ben, ils vont aller s'asseoir au bureau de Legault, si c'est pas déjà fait, en disant « Jamais vous faites une affaire comme ça ». Vous allez nous mettre dans un trouble épouvantable parce qu'imagine les compagnies d'assurance, l'assureur du Collège des médecins, là.
Ouais.
T'imagines? Hey, ça serait
épouvantable. Parce que je me trompe pas, c'est un des grands droits internationaux, ce serment-là d'un médecin de protéger la vie. Je pense que c'est partout comme ça, là. C'est un des piliers de tout ce qui est responsabilité des médecins, là.
Ben oui, absolument. Puis franchement, est-ce que tu veux mettre ça dans la cour des médecins? Est-ce que tu veux laisser à un professionnel le... Tu sais, je veux dire, nous, on est avocats, ça va, là. Il peut y avoir des choses excessivement graves. Mais tu sais, par exemple, prenons un exemple pour nous que j'invente, là. Deux familles, deux enfants de familles différentes qui sont battus, qui sont tout ce que tu veux comme atrocité, là, ça, on sait que ça existe. Et là, on a le choix en défendre un ou l'autre. Le tribunal peut entendre un ou l'autre des dossiers. Tu fais quoi? Moi, j'essaie de transporter le dilemme que tu soulèves dans notre profession. Je trouverais ça absolument épouvantable. Donc, j'imagine pour un médecin, est-ce que c'est à lui de décider s'il va sauver M. X ou Mme Y? Ceci dit, ça existe, ces problèmes-là. Là. Par exemple, en période de guerre, des choses du genre, ça s'est déjà vu dans l'histoire.
Mais même si la loi leur permet, il y en a qui refuseraient, parce que d'un côté, tu aurais la loi, même on l'a vu avec l'aide à mourir, le code criminel avait été modifié, mais il y a des médecins qui refusaient de le faire.
Mais dis-moi si je me trompe, mais je pense que dans cette loi-là, puis peut-être que je dis une connerie, mais je pense qu'on permettait aux médecins de ne pas le pratiquer conformément à leur conscience ou un truc du genre, si je me trompe pas.
C'était pas dans le code criminel, mais c'est une évidence parce que eux, ils ont cette liberté-là de profession. Même il y a eu une époque, je pense qu'ils n'étaient pas en contradiction avec le droit criminel, mais ils pouvaient l'être avec leur profession, là, quand la façon que la loi était rédigée. En tout cas, autre gros dossier. On n'a plus de temps, mais très intéressant, Frédéric. Merci. Puis désolé de t'avoir débuté l'année un peu rough, là, mais tu t'en es bien sorti.
Je viens de me déprimer bien raide, mais c'est pas grave, on va se repimper tout le monde. Alors, une excellente année à toi, ta famille et à tous tes auditeurs et auditrices. C'est un plaisir de collaborer avec toi, puis au plaisir de continuer ça en 2021.
À toi aussi, bye bye. On se voit en 2021. Okay. Restez là, on parle. On va aller sur un aspect beaucoup plus positif. La force du mental, justement. Et on en parle avec Mesmer, que vous connaissez. À tout de suite.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
La force du subconscient. Dans le domaine juridique, que ce soit les avocats, les affaires, la négociation, le pouvoir de convaincre, c'est des éléments qui jouent beaucoup. Il y a souvent, dans des négociations, on le dit, il y a des techniques pour réussir à avoir un peu notre partie. Même, il y a des techniques, on appelle ça le win-win, gagnant-gagnant. On veut chercher le gros gagnant pour des fois en laisser aux autres. Et il y a tous des éléments. Et j'ai rencontré Mesmer à Salut Bonjour. Et je lui ai dit... J'aimerais avoir certains de tes pouvoirs, si on peut dire, et peut-être que je réglerais beaucoup de dossiers et peut-être que je convaincrais encore plus de juges parce que je sens que dans l'hypnose, il y a une bonne partie du subconscient qui joue. Je connais pas tous les détails, mais je reçois Mesmer. Donc, bonjour Mesmer.
Hey, bonjour, bon matin.
Bon matin. Donc, j'étais intrigué. Déjà, je vais t'avouer, quand je t'ai rencontré, j'imagine que ça arrive souvent, j'avais un petit sentiment, est-ce qu'il va m'hypnotiser? Mais honnêtement, je sentais une voix assez grave, des yeux perçants, et j'étais de ceux qui croyaient pas toujours à ça, mais je connais des gens, dont à TVA, qui m'ont confirmé que ça fonctionne, l'hypnose. As-tu souvent ce genre de réaction-là des gens quand ils te rendent compte?
C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Les gens ont quand même cette petite crainte, cette peur de savoir si je vais les hypnotiser ou pas. Ça, c'est vrai que c'est là encore. Et même après plusieurs années, je pense que ça s'est renforcé. C'est devenu de plus en plus fort, ce sentiment-là, parce que là, ils voient ce que je fais à la télé. Justement, tu en as parlé dans l'émission TVA. Plein de gens l'ont vécu. Ou même quand je le fais... sur scène à soir après soir, maintenant, il y a beaucoup de monde qui ont vu le show puis ont vu que c'est vrai. Là, là. Alors, les sceptiques purs et durs, il y en a de moins en moins maintenant parce que ceux-là, ils ont été convaincus parce que leur famille l'ont vécu, eux-mêmes l'ont vécu. Alors, à ce moment-là, le doute se dissipe. Mais oui, cette crainte est encore présente, c'est plaçant. Puis moi, j'aime ça m'amuser avec ça aussi. Hein. On est là, puis notre but, c'est pas de me prendre au sérieux non plus puis d'être le sorcier des temps modernes ou des choses comme ça. J'essaie de démystifier l'hypnose aussi en spectacle.
Ben c'est ça. Et justement, quand on dit les sceptiques seront confondus, parce que Mesmer, ben j'ai commencé à lire ton livre, un livre là, qui s'appelle « Comment l'hypnose a changé ma vie ». Puis ça, je pense, c'est un de tes slogans aussi, de justement que les gens comprennent c'est quoi là.
Oui, absolument. Puis les spectacles, la télé m'aident à démystifier ça, tout en gardant une aura de mystère quand même. Hein. J'essaie de garder, on est là pour faire du showbiz, on est là pour divertir les gens. En tout cas, moi, je suis là pour ça, les divertir et en même temps faire passer un message que l'hypnose est là, ça existe, c'est vrai. On s'en sert à tous les jours. Puis souvent, même à notre insu, on est influencé par notre environnement, l'entourage, la publicité, la télé, la radio. Il y a plein de médias comme ça. Nos amis qui nous parlent, des fois, nous influencent avec une description tellement parfaite d'une aventure, d'un phénomène qu'on a l'impression d'y être, d'y adhérer. Et les hommes politiques aussi s'en servent hein, pour être capables d'amener les foule à décider ou à prendre des bonnes décisions, en tout cas de tenter de les influencer.
Ouais. OK, je comprends. Donc, ça m'intéresse. Dans le fond, bon, on voit, je vais apprendre un peu. Et dans le fond, on sait que bon, l'hypnose, c'est un état qui est second. On a vu dans tes spectacles, on comprend que c'est peut-être l'extrême du subconscient. Mais si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est que le subconscient fait partie de notre vie. Donc, il y a un peu des techniques pour convaincre.
Oui, absolument, absolument. Mais écoute, tous ceux qui travaillent dans la vente, on s'est déjà suivi des séminaires de comment aborder une personne pour arriver à faire le système dans ton nom, qui au final, t'es plus bien le choix de dire oui.
c'est ça.
Mais encore là, ça prend des gens solides pour dire, ben non, finalement, j'ai pas besoin de ton affaire, tu sais. Mais tu sais, les techniques de vente, bon, ils nous posent des questions, puis au final, ben on répond par des oui, par des non, puis avec les choix qu'on fait, mais on est comme dans un système dans ton nom, puis au final, t'as de l'air con si tu dis non, tu sais.
C'est ça.
Alors, à ce moment-là, l'hypnose, c'est des techniques qui sont qui sont un peu similaires, mais ça va au-delà de ça parce qu'on parle directement au subconscient de la personne et on est avec la personne, on est là pour la diriger, la guider vers son intérieur et faire sortir l'imaginaire. Mais en même temps, c'est sûr que je me sers de cet état de distraction pour parler au subconscient directement. Pendant que la personne réfléchit à quelque chose, moi, je peux réussir à influencer le subconscient de la personne et c'est ça qui fait en sorte que la personne entre dans cet état second. Et c'est les zones alpha, le subconscient qui va réagir. Et je suis sûr que toi, t'es avocat, alors mm-hmm. t'as déjà plaidé ou même dans une cour, des fois, ça peut être long. Hein. Et là, c'est pas... On voit des gens même, justement, peut-être dans les jurys, qui vont tomber dans la lune. Tu sais, ils sont ouais. là, en même temps, ils sont pas là. T'sais. Puis pendant qu'ils sont dans cet état second, dans la lune lunatique, mais écoute, l'information rentre, puis le jugement, des fois, peut être altéré. Hein. Et, c'est pour ça qu'ils en prennent plusieurs pour que le groupe décide plutôt que ce soit seulement qu'une personne. Tu sais.
Ben, c'est ça.
Alors, le groupe peut ramener à l'ordre la personne qui avait perdu un peu le fil de mm-hmm. dénouement de justement de la cour. C'est un peu comme ça que ça marche. Hein. C'est pas seulement qu'une personne qui va décider. Et la même chose pour les... Il y a des gens qui me disent à la blague, hey, tu dois avoir des bons taux d'intérêt, tu dois hypnotiser ton banquier. Ben, c'est un peu... Oui, je pourrais l'hypnotiser lui, mais quand ça passe au conseil en arrière avec 12-15 personnes qui acceptent ou pas des prêts ou qui, au final, étudient la transaction, puis ils font « Hey, ça n'a pas d'allure ce que tu as signé là », les gens sont protégés.
Ça finit par se savoir. Mais c'est absolument. Ça, c'est l'intérêt du subconscient, comme on dit, bon, justement, la cour, c'est le bon exemple, il y a un jury où il y a des gens convaincus. C'est ça, nous, on appelle ça souvent « taper sur le clou ». Des fois, on a de l'air quasiment débile parce qu'on répète les mêmes choses, mais c'est peut-être ça un peu, on veut peut-être aller atteindre ce subconscient-là de qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui fait changer quelque chose dans la tête de la personne qui va être en notre faveur.
Oui. C'est une technique de conviction. Hein. T'en es tellement convaincu toi-même que la personne, au final, ben, fait comme, il y a peut-être raison, là, finalement. T'sais. Alors là, c'est un combat entre qui va avoir les bons arguments pour réussir à faire changer la vision de la situation mm-hmm. dans le bon sens, là, tu sais, pour comme tu dis, win-win, là, bon, ben les deux travaillent en même temps, alors qui va gagner, tu sais, c'est sûr qu'avec des bonnes techniques on pourrait dire de la façon de bouger, la façon de les regarder, tu sais, le jury qui sont là quand tu leur parles ou quand tu parles au juge, ouais. tu sais, il y a une façon de bouger, une façon de d'argumenter qui va faire en sorte que ça va attirer l'attention et mm-hmm. tu vas trouver des bons mots pour justement quand, ben moi je le fais sur scène quand je vois qu'une personne est prête à hypnotiser, je le sens, je le vois, tu sais, puis une fois que je le vois dans ses yeux et bang, ça se fait, ça prend 2 secondes, le message passe directement. Des fois c'est pas long pour faire changer une personne d'idée, hein, c'est
ouais.
c'est dans le gestuel, on peut s'en apercevoir et dans la façon dont elle respire. Mais moi je le vois, une personne qui respire sur scène avec un rythme cardiaque qui est accéléré, je dis ok, c'est bon, elle est proche de partir justement dans cet état-là.
Okay.
Alors, j'ai des techniques qui me permettent de les trouver, moi, les bons sujets dans une foule. Alors, et je pense qu'avec la cour, c'est sûr que, bon, c'est pas les mêmes enjeux. Hein. Alors, c'est différent. Là. Il y a des causes.
Mais il y a des similitudes, c'est ça.
Oui, mais c'est ça. T'sais, on peut pas s'amuser non plus à essayer de convaincre les gens quand c'est des causes extrêmes, comme on vient de voir avec qui viennent décéder. Là,
ouais.
Bon, ben écoute, là, à ce moment-là, tu t'amuses pas, tu vas aller chercher la vérité, puis essayer de faire en sorte que la vérité sorte.
Ben, c'est ça. Vraiment, puis que de convaincre, c'est aussi de faire ressortir la vérité, d'aller toucher l'intérêt des personnes. Puis,
c'est ça.
Puis, je comprends bien, mais moi, je donne un exemple, je sais pas comment tu t'évalues ça, mais moi, j'ai un souvenir, puis je sais pas si j'avais appris jeune à parler à mon subconscient. Mes parents étaient séparés, puis je me rappelle, j'angoissais quand changeait d'environnement. Puis jeune, je m'étais trouvé un truc comme ça. Je me répétais 100 fois, tout va bien. Puis à un moment donné, tout d'un coup, je me sentais mieux. Est-ce que je parlais à mon subconscient?
Oui, absolument. Et c'est de l'auto-hypnose en soi. Hein. C'est de savoir se parler, surtout s'écouter, puis après, passer à l'action aussi. Hein, parce que des fois, on aimerait donc changer notre vie, mais on reste assis et on fait rien. Il faut passer à l'action. C'est un peu ce que je parle dans mon livre aussi. Hein, c'est d'apprendre à reconnaître les signes qui nous guident. Notre subconscient nous parle à tous les jours, puis on ne l'écoute pas vraiment. Puis, puis des fois, on le sait, hein, parce qu'on fait un mot, des fois, puis on fait « Colin, j'aurais dû suivre ma première idée. » Notre première idée, souvent, c'est notre subconscient qui nous parle. On ne l'écoute pas, puis il faut s'écouter, il faut passer à l'action, mais éventuellement, la vie, c'est ce qu'on a besoin pour nous. Hein. Alors, il faut se laisser porter, se laisser guider, apprendre à écouter des signes qui sont là autour de nous, puis éventuellement, ça va être positif pour nous.
Ben, c'est ça, parce que des signes peuvent venir de nous. Puis justement, dans ton livre, t'en parles des signes, parce que je comprends bien, toute ton aventure a parti d'un grimoire que ton grand-père t'avait donné. Ouais. Là. Et ça, c'est un des premiers signes.
Pour moi, c'est un des premiers signes, mais ça, c'était, moi, je l'appelais mon grimoire, mais c'est un livre qui était donné aux étudiants qui voulaient être hypnothérapeutes. Alors, les hypnotiseurs de ces époques-là, mais étudiaient dans des livres comme ça, des techniques d'hypnose, de thérapie. Et c'est avec ça, moi, j'ai commencé à apprendre l'hypnose quand j'avais 7 ans, parce que mon grand-père avait acheté ce livre-là. Et oui, ça a changé ma vie par la suite, tu sais. Mais mon grand-père, lui, a changé la mienne, sans même le savoir, quand il a acheté ce livre-là, dans les années 1930. Imagine, avec son petit mouvement qu'il a fait d'acheter un livre comme ça. Ça a changé ma vie dans les années 80-90 et même encore aujourd'hui. Ben oui. Alors, tout ce qu'on fait a des répercussions dans le futur. Hein. Ils disent, hein, pensez à l'action, puis vous allez avoir une réaction. Et ça, c'est l'action entraîne une réaction. Je le démontre dans mon livre que même si j'ai voulu laisser l'hypnose par la suite, mais tout me ramenait sur le chemin de l'hypnose et la force de l'esprit, la force du subconscient, la sophrologie, la scène. Maintenant, aujourd'hui, on se parle, puis dans mes deux derniers shows, on a vendu 1,5 million de billets, de gens qui sont venus voir le show.
Wow.
Alors moi, je le vois, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé, mais j'ai pensé à l'action parce que j'aurais pu avoir le livre puis le laisser sur une tablette et rien faire avec ça.
Ben, c'est
mais
ça.
J'étais comme prédestiné à le faire.
T'sais. C'est d'écouter le signe puis justement de continuer dans la même voie. Mais justement, ça m'intrigue aussi. Est-ce qu'il y a un truc pour reconnaître justement un peu ce que notre subconscient nous dit? Ou...
Oui. Ben oui, il y en a, c'est de s'écouter, puis des fois, c'est pas tout le monde. On n'a pas appris dans notre vie de tous les jours, ou même à l'école, ils devraient nous apprendre ça, à s'écouter, écouter notre subconscient, écouter justement cet état de relaxation qui est là. Quand on est dans la lune, là, on est dans l'expression est dans la lune, on est entre les deux, on est conscient de ce qui se passe, mais en même temps, on est pas long, on rêve, là. Mais dans cet état-là, là, ça, c'est notre subconscient qui est là directement, qui nous envoie des signes, des messages. Et écoute, les signes peuvent arriver de tout bord, de tout côté. Okay. Hein, et moi, j'ai pas peur de me parler à moi-même, puis et souvent, je me demande des réponses, puis mon subconscient, pendant la nuit, m'envoie des réponses. Et là, tu te lèves le matin, tu dis, ah, yeah, j'ai rêvé à ça. OK, puis oui, dans mon rêve, c'était ça. Écoute, quand j'ai un problème dans la vie à régler, là, des fois, je m'endors là-dessus, puis pendant la nuit, j'ai la solution
qui arrive. Ah, ben moi, j'embarque là-dedans, j'ai ce sentiment-là aussi, des fois. Ouais.
Ben, c'est ça, fait qu'on est puissant, je vous le dis, notre cerveau est puissant, il faut juste apprendre à le reconnaître. Il y a des bons. Aujourd'hui, il y a moins d'écoles qui l'enseignent, mais moi, éventuellement, je vais revenir à l'enseignement, je vais enseigner ça, je vais donner des séminaires pour aider les gens à reconnaître justement cette force, cette puissance qui est là, puis aller se créer un coffre d'outils et se servir dedans quand on en a besoin.
C'est
bon,
ça.
J'ai besoin d'un marteau aujourd'hui, je vais aller chercher. J'ai besoin d'un outil, je vais aller chercher. Alors moi, j'ai appris à faire ça. Mes enfants l'ont appris, ma femme l'a appris ça aussi. Alors, c'est sûr que ma fille qui a 2 ans, là, elle aussi, je vais y monter à le faire, tu sais, parce que.
Ben oui, puis c'est bien dit.
Il faut le démontrer. Alors, je vais peut-être revenir à l'enseignement quand je vais avoir fini les grosses tournées de spectacles partout là, à travers le monde, là, que je vais vouloir me caser un peu plus. Là, je vais revenir à ça.
Ben, c'est ça, puis c'est bien dit, s'en servir. Puis je pense que des fois, à t'entendre aussi, ça. De s'écouter se rapproche aussi d'une certaine philosophie qui nous aide à passer à travers beaucoup d'épreuves dans une vie, avoir une bonne attitude, puis ça rejoint tout ça. Et même, on va finir avec ça, mais aussi, ça va encore plus loin, c'est que dans ton domaine, il y a des gens qui traitent des mots, des choses là avec l'hypnose, là, dans le sens qu'ils réussissent à se guérir.
Oui, avec l'hypnothérapie, ça peut aider une personne à se libérer de phobie, addiction, problèmes physiques, psychologiques. Ça marche très bien, hein, parce que nous sommes la personne qui avons les meilleures réponses pour nous. Hein. Et avec l'hypnose, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on rentre la personne dans l'état second, dans son subconscient, et on pose des questions au subconscient. En tout cas, moi, c'était ma technique à moi.
Okay.
Et le subconscient de la personne, c'est elle qui a la meilleure façon de régler les problèmes, parce que les problèmes qui nous arrivent dans la vie, là, honnêtement, là, quand tu y penses, c'est des problèmes qu'on est capable de surmonter.
Ouais.
S'il y a des problèmes qui nous arrivent, là, on s'arrête, on les regarde, puis si ça nous arrive là, c'est parce qu'on est en mesure de pouvoir passer au travers.
Ouais.
Et ça, quand on comprend ça, là, on se calme, on fait comme, OK, matin. Ça m'arrive. Mais j'ai des outils pour y aller. J'ai des outils pour m'en sortir. Des fois, ça nous paraît tellement gros que on est en petite boule et on braille, là, on pleure. Mais quand on prend ça un petit morceau à la fois, ben écoute, on réussit à avancer et à
améliorer tout ça. Mais Mesmer, tu serais un excellent avocat parce que moi, je pense pareil et je le dis souvent, puis ça rejoint ce que tu dis, c'est on contrôle pas ce qui va nous tomber dessus, les tuiles qui nous tombent dessus, mais on contrôle comment qu'on va gérer ça, si ça va bien finir ou mal finir. Donc, l'attitude, ils disent en anglais, attitude is everything. Donc, c'est un peu ça que ça rejoint. Mais c'était vraiment intéressant. Et ton spectacle en ce moment, c'est hyper sensoriel. Et la prochaine date, c'est à Victoriaville, 9 mai, c'est ça? Puis le 10 mai au Saguenay.
Oui, il me reste encore un petit 2-3 semaines au Québec avant de retourner en Europe au mois de juin. Oui. Je vais faire une autre tournée de 3 semaines. Après, ben écoute, j'ai pris un été de congé complètement. Je reviens à l'automne pour d'autres représentations partout au Québec encore. Alors, ça finit pas, on continue. Toutes les dates sont sur mon site, mesmer.ca, ou sur ma page Facebook, Instagram. Tout est là. Puis c'est le temps de venir voir le nouveau show. Là, ça fait à peu près un an et demi qu'on le roule. Là, puis il est excellent, je vous le dis, allez vous amuser.
Oh oui, on invite tout le monde à aller voir. Mais en plus, on connaît avec le livre aussi ton côté humain et ta philosophie. Donc, ça peut rien qu'être bénéfique d'aller voir ce show-là. Donc, merci beaucoup, Mesmer, puis bonne journée.
Merci.
Bye bye.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Connaissez-vous la maladie, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, aussi appelée la maladie de Lou Gehrig? Cette maladie où est-ce qu'on perd tranquillement les muscles? Et dans le pire de la maladie, une personne peut être prisonnier de son corps. Et il y a des avancées dans ce domaine-là. Il y a des médicaments, des traitements expérimentaux, mais qui sont pas encore approuvés. Et il y a Mario Hudon, animateur qui est animateur radio, qui veut mener un combat. Un combat, il sait que ses jours sont comptés alors qu'il est atteint de la maladie. Sauf qu'il souhaite laisser un héritage en se battant pour permettre aux gens atteints d'obtenir de nouveaux traitements contre cette maladie. Et il est avec nous. Bonjour, Monsieur Hudon.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous menez tout qu'un combat. Et on est de votre côté. On espère que ça va aboutir, comme on dit. Mais c'est quoi le problème en ce moment? Il y a des nouvelles avancées, mais vous pouvez pas en bénéficier.
Lorsque Norman McIsaac, qui est un gars qui a la SLA depuis 7 ans, il a déjà dépassé l'espérance de vie qui est 3-5 ans pour ceux qui sont atteints de la SLA.
Okay.
Lui a déposé une pétition parce qu'il y avait déjà eu une motion à l'Assemblée nationale pour accélérer ou au moins faire des efforts pour que la SLA soit mieux encadrée, que les recherches, qu'on pousse pour les recherches. Le problème, c'est qu'il y a présentement des peut-être des solutions ou des choses au moins qui sont intéressantes qui peuvent arriver, mais le processus d'approbation de Santé Canada d'un médicament prend entre 18 et 24 mois pour qu'il soit approuvé et disponible pour les gens qui sont atteints de peu importe la maladie. Pour ce qui est de la SLA, comme l'espérance de vie, exemple, pour moi qui viens d'être diagnostiqué au début décembre, j'ai espérance de vie de 3-5 ans, si j'attends 24 mois avant de trouver un médicament qui pourrait stopper la maladie, bien c'est sûr qu'au moment où il va être disponible, je risque d'être sur respirateur et il va peut-être être décédé.
Ah, ça n'a pas de sens.
C'est une question de... Il faut que ce soit accéléré.
et plus rapide. Parce que vous êtes prêt à prendre des risques, là.
Ben, on est prêt à prendre des risques, mais normalement, Santé Canada, lorsqu'ils reçoivent sur la table l'approbation de que ce médicament-là pourrait être disponible, le processus est beaucoup trop long pour qu'il soit disponible. Il n'y a pas de risque, normalement, à ce médicament-là. On l'a vu avec le vaccin pour le COVID, par exemple, où normalement, un vaccin va prendre 4 à 5 ans. Mais là, on l'a approuvé et on l'a distribué en dedans de 9 mois, ce qui est spectaculaire. Ça... On comprend que la SLA n'est pas une maladie aussi connue ou aussi répandue que le COVID.
Oui. Ça doit être frustrant quand même. On dit on pourrait accélérer, mais on le fait pas parce qu'on met pas ça en priorité. Là.
Ben, c'est ça. Et c'est ça que cette pétition-là veut faire. C'est de forcer, en tout cas au moins, le ministre de la Santé et Santé Canada à approuver les médicaments un peu plus rapidement, ne serait-ce que dans le cas de la SLA. Comme je vous dis, c'est une question de temps pour nous. Notre état, comme c'est les neurones qui sont affectés, on sait qu'on ne pourra pas nous guérir. Okay. Si on peut stopper la maladie, comme moi présentement, j'ai la portion où j'ai de la difficulté à marcher, c'est mes jambes qui sont touchées, mais d'autres, lorsque la maladie débute, c'est la parole. Moi, j'aime beaucoup parler, je suis chanceux d'avoir eu ça comme problème. Après ça, c'est avaler et respirer. Pour eux, en dedans de 24 mois, c'est presque plus vivable.
C'est puis je comprends pourquoi quelqu'un qui est conscient, qui accepte les risques, qui est prêt à signer des papiers, dire je veux avoir le traitement expérimental, même s'il n'est pas approuvé, c'est pas possible, là. C'est ça que je comprends.
Non, c'est ça. Pourquoi? C'est pas possible et c'est très coûteux. Et présentement, il y a un traitement qui est disponible qui coûte 80 000 $ par année.
OK.
Et vous comprenez que là, il est approuvé, la RAMQ le paye. Donc, ça, c'est pas si mal, mais on parle d'un traitement qui va prolonger la vie de 3 à 4 mois pour l'instant. Donc, ça prend plus que ça. Il y a à peu près 6 protocoles qui devraient être disponibles en 2021, mais qui, en raison des délais, vont peut-être arriver juste plus tard. Donc, c'est ce qu'on veut faire accélérer. Vous comprenez que cette maladie-là, on garde notre intellect n'est pas affecté d'aucune façon, sauf que nos muscles finalement ne bougent plus. Donc on vient, comme vous le disiez tout à l'heure, on vient prisonnier de notre corps et vous comprendrez que c'est pas vivable. Et surtout pour les gens autour de nous, les gens qui nous accompagnent là-dedans, qui vont devoir s'occuper de nous, les aidants, nos familles, nos amis, pour moi c'est intenable, là.
Ah, j'imagine, c'est vraiment choquant d'entendre ça. Parce que il y a quelqu'un de célèbre qui avait eu cette maladie-là, il y a un scientifique.
Stephen Hawking.
Oui, c'est ça.
Donc, qui est décédé en 2018. Lui, on comprend que, comme vous voyez, il était prisonnier de son corps, mais tout son intellect était là.
Ouais.
Et ça, mais sauf que qui peut vivre de cette façon-là, c'est compliqué. Là. Disons que c'est compliqué.
Ben oui.
Là. Pour le simple des mortels, disons que c'est difficilement acceptable.
Oui, je comprends. Et les nouvelles avancées peuvent-tu permettre une amélioration? Est-ce que vous avez des données sur ce que ça pourrait permettre si vous étiez traité avant?
Ben, en tout cas, il y a des choses qui sont prometteurs et que, comme il y a certains revues scientifiques qui en parlent, il y a des tests de fait sur souris et porcs qui sont donc qui arrêteraient peut-être la progression de la maladie.
Ah,
donc, si demain matin, on arrêtait ma maladie où je suis là, dans le fond, les 20 prochaines années, je boiterais, j'aurais de la difficulté, je marcherais avec une canne, mais vous comprenez que ça, c'est acceptable.
Ah, je comprends, mais ça doit être... Excusez, je suis fâché pour vous parce que j'en reviens pas. Savoir qu'on a la chance, avoir vu aussi en 2020 ce qu'on a fait avec un vaccin là, qui est ce qui paraît très technologique, qui a été c'est historique la rapidité avec laquelle je comprends que ça a affecté le monde, mais on se demande pourquoi pour ce genre de maladie là qui est terrible, on fait pas plus d'efforts. Est-ce que le Santé Canada aurait le pouvoir de raccourcir considérablement les délais?
Ben, on pense que oui. Et c'est pour ça que l'importance de la pétition est de voir que comment ça peut mettre un peu de pression puis de voir comment il y a de l'intérêt pour justement... Vous rappelez-vous du Ice Bucket Challenge?
Oui.
Qui avait mis l'emphase et qui avait démontré à la planète ce que la SLA, la maladie de Lou Gehrig, était. Puis il y a eu beaucoup d'avancées à ce moment-là. Il faut que ça continue. Comme les avancées là-dedans, il y en a. Ce qui reste encore une fois, c'est... Comme on dit, au Canada, il faut accélérer l'accès à ces protocoles-là pour donner de l'espoir aux gens qui ont atteint, des gens comme moi, comme les autres, de l'espoir au moins pour les prochains. C'est pas pour nous.
Ben non, mais c'est sûr. Puis en tout cas, je vous souhaite vraiment que ça se mette à bouger. Parce que bon, il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est le Ice Bucket Challenge, c'est le bon exemple. Quand vous apprenez cette nouvelle-là, C'est exactement ça.
Et c'est un choc et pour nos proches et tout ça. Donc, c'est super important. J'invite les gens à aller sur SLA Québec pour aller voir le lien pour la pétition. C'est très facile. Ça prend deux minutes. Vous signez la pétition. Vous allez recevoir un courriel. Vous devez compléter en acceptant le courriel. Donc, c'est très, très important pour nous. On est passé de 800 au Québec. On est à plus de 6700 maintenant. On est passé de 3500 au Canada, on est presque à 12 000 signatures là, depuis deux semaines. Donc, okay. Pour nous, c'est super important, c'est de l'espoir, on a besoin de vous, là.
Ben oui, on invite les auditeurs, là, faites-le, si vous avez de quoi faire dans la journée, bonne cause, prenez le temps, moi je vais le faire également. On vous souhaite vraiment que le gouvernement se réveille parce que c'est maintenant qu'il faut agir, puis on vous comprend. Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça, puis on vous souhaite bon courage là, puis le meilleur dans et on espère que ça débloque pour vous. Donc Mario Houdon, ben, bonne journée.
Merci, bonne année 2021, santé à tout le monde.
Bonne année à vous aussi. Bye bye.
Bye.
Restez avec nous. Au retour, on parle avec Étienne Boudou Laforce, qui a écrit un texte d'opinion en lien avec, on parlait de science, on parlait d'accélération. Il se demande vaccination obligatoire ou incapacité à convaincre. On lui en parle dans quelques minutes.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Préparez vos questions.
Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
Cube Radio. 1877-827-2346.
Vaccination obligatoire, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est possible? Ou l'incapacité à convaincre, est-ce que la sensibilisation est assez grande? Est-ce que on comprend bien c'est quoi le vaccin? Et il y a une lettre d'opinion qui a été écrite par Étienne Boudou Laforce qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier. Merci de l'invitation.
Ben merci d'être là parce que c'est un sujet d'actualité qui fait beaucoup parler. Et c'est quoi votre vision à ce sujet-là? Est-ce qu'on va être rendu là aux vaccins obligatoires?
Je pense pas qu'on soit rendu là. En fait, il faut bien comprendre qu'on peut être pour la vaccination, mais pas contre son obligation. De la même manière qu'on peut être pour le droit de vote, mais contre son obligation.
Mm-hmm.
Je comprends. Mais je pense pas qu'on soit rendu là, ni que le gouvernement doit aller dans ce sens-là.
OK. Et quand vous écrivez l'incapacité à convaincre, pourquoi?
L'incapacité. Mais en fait, ce serait un signe d'incapacité à convaincre si on en arrivait à là. C'est plutôt là. En fait, des fois, on va penser à l'obligation vaccinale, ça va nous rassurer, on va croire que c'est une bonne chose, mais quand on regarde, en fait, la vaccination obligatoire, ça garantit pas une meilleure couverture vaccinale. Il n'y a pas de différence d'importance dans le taux de couverture vaccinale entre les pays où la vaccination est obligatoire et ceux où elle ne l'est pas. Donc, ça change pas grand-chose, en fait. On est mieux d'être en mode information non coercitive, rassuré, être 100% transparent, clair, fournir le plus de données possible. C'est comme ça qu'on rassure. Si je veux convaincre mon entourage de manger des whippets, je sais pas, forêt noire, ben c'est pas en les achalant, en leur disant que c'est donc ben bon, puis il manque de quoi, puis que c'est des couillons, c'est en laissant la boîte ouverte, en leur disant que c'est intéressant, en donnant l'exemple, en disant c'est délicieux. C'est comme ça que je les convainc pas en sortant le bâton, en sortant la carotte.
OK, je comprends. C'est vraiment pas à répression. Et le vaccin, est-ce que les gens ont peur du vaccin?
Est-ce que les gens ont peur? C'est une bonne question. Mais, moi, admettons, j'ai pas peur du vaccin. Je vais me faire vacciner, notamment parce que dans mon entourage, j'ai des cardiaques, y en a un qui a un problème respiratoire, il y a de l'obésité. Donc, moi, je vais me faire vacciner. Est-ce que les gens ont peur? Je pense que les gens ont davantage des questions, ont davantage des interrogations, plus qu'autre chose. Peut-être qu'il y a une minorité qui ont peur, qui sont anti-vaccins, mais je pense que la vaste majorité des citoyens, c'est des nuances de gris, là. C'est pas noir ou blanc, là, chez les citoyens.
Mm-hmm. Il y a certains qui, à l'époque, je pense que c'était le SRAS ou la H1N1, je sais plus lequel, là, s'il y avait de la campagne de vaccination, là, puis il y avait il disait que quelqu'un pourrait avoir le Guillain-Barré, des choses comme ça. J'imagine que dans cette sensibilisation-là, c'est de faire comprendre que les séquelles, les effets secondaires peuvent être, c'est rare, j'imagine. Il faut sensibiliser,
il faut pas avoir peur de nommer qu'il va y avoir des effets secondaires et qu'on va répondre par rapport à ça et qu'on va se mettre en mode d'observation. Tout le monde se met en mode observation présentement. Fait que quand on va commencer la vaccination, il va y avoir des données de sécurité de plus en plus qui vont sortir, et c'est là où on va pouvoir s'ajuster. Mais il faut être 100% transparent, il faut dire qu'il y a des bons côtés, qu'il peut y avoir des effets secondaires. Puis s'ils voulaient marquer fort le gouvernement, ou les gouvernements pourraient dire OK, il y en a qui ont des inquiétudes par rapport aux effets secondaires, disons, forts, qui peuvent arriver de manière assez minime, eh bien, on va vous dédommager. Ça pourrait répondre à plusieurs inquiétudes chez plusieurs personnes, d'après moi. Ouais. Alors que, en ce moment, de ce que j'ai compris aux États-Unis, puis au niveau de l'Union européenne, je pense que il n'y a pas nécessairement de dédommagement qui vont être fournis et c'est impossible de poursuivre, admettons, les compagnies d'industrie pharmaceutique.
Donc, ouais, c'est très difficile. Non, effectivement, c'est très difficile. Au Québec, par contre, on a un fonds d'indemnisation des vaccins, de gens qui ont eu des problèmes, des effets secondaires au vaccin. Mais ça double tranchant. Un, ça sécurise certains de dire, bon, s'il y a un problème, je vais être indemnisé. Mais d'autres se disent, ben, s'il y a un fonds, c'est que ça arrive. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens, ce que je constate, veulent pas se faire vacciner. Là, on peur de ça, là.
Ouais, mais je pense que ça va être une minorité qui va penser que ça vient valider leurs idées. Là. Je pense que c'est important qu'il y ait un fonds puis qu'on puisse aider s'il y a des effets secondaires. Mais c'est important de rendre l'idée intéressante, de faire du renforcement positif, de rendre l'idée sexy, vraiment. Là. C'est comme ça qu'on va gagner la confiance des gens. Puis il faut se rappeler que je pense au niveau de la vaccination H1N1. Le Québec a été vacciné massivement. On a eu un très haut taux de participation. Fait qu'il faut se rappeler, il faut avoir confiance aux gens, là.
Mm-hmm. H1N1, c'est ça, ça avait bien fonctionné. Ben, moi, je m'étais fait vacciner, comme beaucoup. Puis, à un moment donné, ben là, c'était tombé, là. C'est la maladie, et ça avait arrêté. Mais on sentait ça venir. En tout cas, je me rappelle, à l'époque, ça n'a pas duré si longtemps, là. Puis, on sentait venir cette vague de contestation-là contre le vaccin. Là.
Oui, puis c'est là où, si on se met en mode obligation vaccinale, ça va sûrement peut-être en craquer certains. Ça va venir valider que, oh mon Dieu, on nous contrôle tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas une option à choisir. Et puis, à la fois, c'est un super outil, c'est une bonne nouvelle, les vaccins. Il faut pas oublier que c'est un outil parmi d'autres. Donc, c'est pas une panacée. Et il faut continuer à se laver les mains, porter le masque, qu'on continue de dépister massivement, d'isoler, tracer et traiter précocement les symptômes de la maladie. Parce que, peut-être que je suis pas à jour, mais j'ai l'impression qu'on laisse encore des gens qui ont le diagnostic de la COVID chez eux et on les invite pas à l'hôpital pour les observer et pour les traiter les symptômes précocement de la maladie. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire autrement. C'est une bonne nouvelle, les vaccins, mais il y a d'autres choses à faire en même temps aussi.
Oui, effectivement, tout le temps, prévention, c'est toujours bienvenu. Mais le gouvernement, parce que on en parle beaucoup, la loi sur la santé publique, l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement d'obliger le vaccin permet de cibler une partie de la population qui pourrait être obligée. Bon, c'est sûr qu'on pense aux gens qui travaillent avec des personnes vulnérables. La loi est très sévère, va aller jusqu'à dire qu'un juge peut ordonner à quelqu'un d'être vacciné, qu'une fois que c'est ordonné, on peut le prendre de force, l'amener dans un centre de vaccination et le forcer, digne d'un film, quasiment l'attacher, le vacciner pour que ça marche. Bon, ça, c'est l'épouvantail, l'histoire d'horreur. Mais ce que vous dites, c'est que dans les faits, sur le terrain, ça marcherait jamais là, de forcer comme ça. Là.
Je pense pas, puis ça n'aurait pas nécessairement le résultat escompté. Fait que ça rassurerait ceux qui sont en faveur, mais ça convaincrait pas, et je sais pas s'il y aurait davantage de monde qui serait vacciné statistiquement dans les faits. Donc, ça rassurerait certains plutôt. Mais de toute façon, on va pas en arriver là. De toute manière, je pense que vous connaissez assez bien, vous soulevez des bons points. Là. Au niveau du droit, ça va être du nouveau droit. Là, ça va être tension entre charte individuelle canadienne québécoise versus ce dont vous avez parlé. Je pense que c'est l'article 20, là, j'ai oublié. Mais je pense pas qu'on va en arriver là, puis je pense qu'il le faut pas, là. Ce serait un aveu d'échec complet de communication au niveau sanitaire, là.
Non, ben c'est ce que je crois aussi, parce que c'est dans la théorie, ça se dit bien, là, puis on en a parlé, mais dans la pratique, c'est quoi ça sera pas une deuxième crise d'octobre que l'armée va débarquer puis va vacciner de force des gens. S'il y a un mouvement, parce qu'on le sent, là, imaginez le mouvement qu'il y a eu pour les masques, là, penser au vaccin si on forçait. Ça serait fois 20, là, tu sais, on est dans un masque, un bout de tissu dans le visage, là, tandis que le vaccin, on entre en conflit avec tous les droits sur le droit aux soins, le consentement aux soins, le refus de soins, le droit à la sécurité. C'est le fait de l'intrusion de planter une aiguille, oui, et d'injecter un liquide, là, on serait ailleurs. Donc, c'est sûr, ce que vous dites, je le comprends bien. Travaillons, c'est ça vos solutions, c'est de la sensibilisation par-dessus sensibilisation.
Bon, oui, tout à fait. Puis, de toute façon, on est loin de consentement libre et éclairé, là, avec ce que vous dites, là, si on en vient à ça. C'est un échec. Puis, faut arrêter aussi de penser que il y a des vastes mouvements où c'est polarisé. On a l'impression que c'est polarisé, mais j'ai pas l'impression que ça soit si noir et blanc. Je pense que les gens sont capables de se parler, sont capables de recevoir l'information objective, sont capables de regagner confiance. Et le piège, en fait, ce que je voulais souligner, c'est que présentement, c'est la situation pandémique, ça nous affecte tous psychologiquement, on est tous à cran, et il faut surtout pas rentrer dans traiter son prochain avec peu de respect. C'est pas
étonnant. Non, c'est
pour
sûr.
Le tissu social, c'est, il faut pas rentrer là-dedans. On se met à traiter son voisin comme un ignare, comme on le disqualifie tout de suite. On est mieux de se dire, OK, comment on peut faire autrement notre communication pour être convaincant?
C'est vrai.
On sait pas encore combien on a besoin de pourcentage de population pour que ça limite la population.
Je crois en votre méthode un peu plus, puis effectivement, puis la lueur d'un futur meilleur, je pense, va aider beaucoup de gens à être convaincus. Merci beaucoup, Étienne Boudou Laforce, de nous avoir, on invite les gens à aller vous lire dans le Journal de Montréal. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.
Bye bye. Restez là, on parle à Raphaël Lavoie, producteur de contenu au Journal de Québec. Très intéressant, 10 nouvelles positives à retenir en 2020, 26 mots présumés d'années inoubliables. À tout de suite.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Maintenant, on vous parle des bilans de fin d'année un peu moins conventionnels. On parle de 10 nouvelles positives à retenir en 2020 avant d'entrer dans l'année. pour de bon. On flush 2020 ce soir, excusez l'expression. 26 mots pour résumer une année inoubliable. L'année 2020 en 15 images marquantes, c'est dans le journal. Innovation ou découverte passée inaperçue ou presque en 2020. On en parle avec Raphaël Lavoie, producteur de contenu pour le Journal de Québec. Bonjour.
Bonjour François-David, ça va bien?
Ça va très bien. J'aime ton sujet. C'est surtout en ce 31, cette veille du jour de l'an. Donc, il y a des nouvelles positives quand même en 2020. Là.
Oui, effectivement. On a tendance à l'oublier hein, avec toutes les pots de fleurs qui nous ont tombé sur la tête au cours des derniers mois. Mais bon, il y a de bonnes choses qui sont passées en 2020. Et puis, on a fait différentes revues de l'année, comme tu l'expliquais, l'équipe numérique du Journal de Québec, là, qui sont peut-être un peu plus différentes, parce que bon, on a eu une année différente, faut le dire. Donc, d'entrée, elle était les nouvelles positives à retenir, parce qu'il y en a eu.
Parce que c'est facile de tomber dans le négatif, mais je trouve ça intéressant, là. Positive, c'est quoi la première?
Ben, on a tendance à l'oublier, mais Laurent Duvernay-Tardif a gagné le Super Bowl cette année. Ça s'est pas passé là, il y a 3 ans, ça s'est passé le 2 février dernier.
Les derniers mois ont oublié ça.
Ça semblait une éternité, mais pourtant, ça s'est passé en février. Et puis, Laurent Duvernay-Tardif, on en a entendu parler pas mal au cours des derniers mois, pour d'autres raisons, mais souvent, tout le temps, en fait, de bonnes raisons, parce qu'après avoir gagné le Super Bowl en février, Duvernay-Tardif, notamment, qui est revenu au Québec, s'est fait porter volontaire pour donner un coup de main dans les CHSLD au printemps, puis à l'automne, même Laurent Duvernay-Tardif qui a aussi remporté le trophée Lou Marsh qui est remis à l'athlète de l'année au Canada en décembre dernier.
Donc quel homme! Je dis ça à la blague, mais des fois, il est tellement parfait qu'il en est fatigant. Là. Hey, médecin, il gagne le Super Bowl, c'est quelqu'un, là.
Oui, absolument. Ça a été vraiment une personnalité inspirante de 2020. Mmh. Dieu sait que ça nous en prenait quand même pour passer au travers des derniers mois. On oublie peut-être aussi que le plus gros lot de l'histoire du Québec, de l'Auto-Québec, a été remporté par un emballeur d'épicerie de la Rive-Sud de Québec en février également. 70 millions.
C'est pas rien. Il était tout seul à gagner ça?
Ça a été partagé avec sa famille. Donc, ça donnait un coup de main. 70 millions. Pour plusieurs, c'est peut-être pas assez d'une vie pour le dépenser. On parle de COVID. On a parlé beaucoup de COVID-19 cette année, mais il y a eu des dons, notamment, qui ont été faits par de grosses pointures, justement, pour aider à la lutte contre le virus. C'est notamment le cas du multimilliardaire Jack Dorsey, qui est fondateur de Twitter, qui a partagé près du tiers de sa fortune pour lutter contre le coronavirus. Et il y en a d'autres, là. Il y a Jeff Bezos.
Du tiers, c'est quelque chose.
Oui, c'est ça. On critique souvent, là, on entend en fait des critiques, notamment, c'est ça, de Bezos ou peut-être de Zuckerberg, qui donnent des montants qui peuvent sembler un peu dérisoires quand on regarde leur fortune. Mais Jack Dorsey, c'est quand même le tiers, là, de sa cagnotte là qui s'est engagé à partager. Donc ça c'est quand même une excellente nouvelle.
C'est des bonnes nouvelles. Moi, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a de l'argent comme ça, c'est quasiment un devoir pour eux d'en redonner. c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est ça exactement. J'en sortirais peut-être une petite dernière au Québec, une excellente nouvelle pour plusieurs fans de hockey. Ça aussi, on l'oublie. Le Canadien s'est qualifié en série contre toute attente grâce aux nouvelles règles liées à la pandémie. Ça, c'était une bonne nouvelle pour plusieurs amateurs de hockey.
C'est vrai. On a pu manger des ailes de poulet.
Oui,
en suivant.
En confinement, mais bon, quand même.
C'était bon, qui participe.
Oui, effectivement, c'est ça. Quand même un parcours, là, les Canadiens qui avaient éliminé les Pingouins de Pittsburgh en quatre parties avant de se faire éliminer contre les Flyers. Mais quand même, là, c'était un parcours en série que plusieurs n'attendaient pas. Mais qui était
non, assez, effectivement, ça a fait oublier un peu le confinement. On a le temps pour une autre. C'est intéressant, ces nouvelles-là. Bonne nouvelle.
Oui, bien sûr. Ben, je compléterais peut-être avec la grosse nouvelle du mois de décembre, la grosse bonne nouvelle du mois de décembre, qui est un vaccin contre la COVID-19. Ben, deux vaccins, en fait, pour le moment, ouais, là, qui sont arrivés au Québec, et des campagnes de vaccination également qui, pour le moment, se déroulent quand même assez rondement. Dieu sait que ça aurait pu quand même dérailler. On l'attendait autant du côté du vaccin. Est-ce qu'elle allait être efficace ou non? Est-ce que la campagne allait fonctionner? On touche du bois, mais pour le moment, ça se passe bien, là.
Ben, honnêtement, c'est bon de le souligner. Je dirais pas des gros mots à radio, mais c'est une fichue bonne nouvelle. On l'oublie parce que on allait peut-être être des années, là. C'était long au début, là. Et même, en entrevue, le docteur Béliveau disait que cette avancée-là de vaccin, c'était historique parce que c'était tout qu'un autre procédé qui allait peut-être même faire des avancées dans le domaine du cancer. En tout cas, je peux pas y aller dans le technique, mais c'est vrai que je pense qu'on peut le déclarer, c'est la bonne nouvelle de 2020.
Oui, c'est du jamais vu, là, sur un plan plus scientifique, mais plus concrètement, c'est un peu la clé pour reprendre des vies un peu plus normales, là, pour le commun des mortels. Donc, ça met un peu de lumière dans ce mois de décembre.
Ah, effectivement. Hey, 26 mots pour résumer cette année inoubliable.
Oui, ben il s'est passé beaucoup de choses cette année par rapport à la COVID, oui, mais par rapport à autre chose, j'ai regardé un peu les 26 mots qui ont été choisis pour l'abécédaire par ma collègue Marianne Bergeron-Courteau. Et il y a à peu près le tiers qui est lié à la COVID-19, mais si on regarde ça de l'autre côté, c'est quand même le deux tiers des mots qui ont été retenus pour l'abécédaire qui n'ont pas rapport avec la pandémie. Donc, il s'en est passé quand même des choses en 2020, même si ça a peut-être été submergé par les nouvelles de la pandémie qui a submergé notre quotidien en quelque sorte, là.
As-tu quelques exemples?
Oui, c'est ça exactement. Ben, B comme Black Lives Matter, le décès de George Floyd à Minneapolis a relancé en quelque sorte là, le mouvement Black Lives Matter qui a eu de l'écho là, aux quatre coins du monde. Il y a eu des manifestations autant ici au Québec que plusieurs qui ont été quand même violente par moment, qu'il y a eu des confrontations du côté des États-Unis. Ça l'a mis en lumière quand même certains enjeux sociétaux là du côté des États-Unis. Donc, on en parlait quasiment plus, là, rendu en COVID, pas en COVID, en juin, de la COVID-19 du côté des États-Unis. C'était vraiment le mouvement Black Lives Matter, en fait, qui avait de la place, là.
Ah non, ça a fait bouger un terrible événement, mais qui a fait peut-être bouger certaines choses. Il y avait des problèmes latents dans ce domaine-là aux États-Unis.
Mm-hmm.
Y a-t-il d'autres mots qui ressortent?
Pour encore s'éloigner, parce que on imagine que c'est la COVID-19, ça l'est. D comme dénonciation, il y a eu un autre mouvement qui a déferlé sur le Québec en juillet, qui a emporté sur son passage quand même bon nombre de personnalités publiques. Là, on parle de Marie-Pierre Morin, Bernard Adamus, Yann Perrault, Kevin Parent, David Desrosiers, pour ne nommer que ceux-là. Il y a eu beaucoup de répercussions aussi dans le monde du web. En fait, plusieurs personnalités web, que ce soit des youtubeurs, des influenceurs, qui ont aussi été dénoncés sur les réseaux sociaux cet été. Donc ça aussi, ça a quand même été marquant alors que le virus prenait un peu une pause dans l'actualité.
C'est vrai, ça a tellement fait jaser, comme on dit, même il y a encore des séquelles de ça, des deux côtés. on sent une volonté des présumées victimes de bouger. Là. C'est sûr que moi, je trouvais pas tout le temps que c'était la bonne méthode. Il y a aussi le site dit son nom là, qui a fait quelques dommages qui étaient assez particuliers. Là. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler et qu'on oublie ça avec la COVID.
Oui, ben un autre dossier qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, un long dossier, c'est celui de l'élection américaine. Donc, J comme Joe Biden, qui est devenu le président élu aux États-Unis, après quand même toute une saga qui s'est déroulée bon pendant la campagne présidentielle, mais aussi bon après une soirée électorale qui n'a pas été facile, une semaine électorale, on pourrait dire, en quelque sorte, du côté des États-Unis. Donc Joe Biden qui sera le nom en quelque sorte qui va marquer pour les quatre prochaines années la politique et l'actualité américaine.
Ben oui. Et aussi la surprise de du mouvement, c'est quand même Donald Trump qui est resté fort aux États-Unis, là, la sorte de mentalité instaurée par Donald Trump, là, qui va peut-être être repris dans les prochaines élections.
Oui, ben c'est sûr que on peut pas prédire l'avenir, mais quelqu'un qui prédirait qu'on ne parlera plus de Donald Trump pour les quatre prochaines années, qu'il va disparaître complètement paysage politique. Moi, je miserais pas mon argent là-dessus.
Non, c'est ça. Il y a un nouveau mot aussi, c'est le Trumpiste. Ça sera peut-être même plus Donald Trump, mais le Trumpiste pourrait rester. Le temps file vite, là, mais il y a les innovations ou découvertes passées inaperçues ou presque en 2020.
Oui, ben c'est ça. En ce moment, on parle beaucoup du vaccin. On l'a dit il y a quelques minutes, là, c'est quand même une percée historique dans le monde de la science, mais il y a eu quand même d'autres découvertes, d'autres innovations qui, comme tu le dis, sont passées carrément inaperçues ou presque en 2020. L'intelligence artificielle, notamment, bon, ça, il y a des percées quand même d'année en année. En janvier 2020, il y a une filiale de Google Alphabet qui est DeepMind, qui est une filiale d'intelligence artificielle une technologie qui pouvait détecter le cancer du sein, bon, entre guillemets, aussi bien qu'un médecin. C'est une intelligence artificielle qui pouvait analyser en fait les données et améliorer la précision des dépistages par mammographie. Ça peut, surtout en des moments où est-ce que parfois la main-d'œuvre peut venir à manquer un peu si la technologie met un coup de main ou du moins aller préciser les diagnostics, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi tout ce qui est exploration spatiale qui a quand même vécu une année assez forte en 2020. Trois missions sur Mars, notamment, qui ont été lancées en juillet lorsque la Terre et Mars se sont alignés, ce qui facilitait l'envoi de vaisseaux spatiaux vers la planète. Donc, d'une part, il y a les Émirats arabes unis qui ont lancé une première mission interplanétaire. Il y a la Chine qui a lancé une mission également qui comprend un rover, un petit véhicule là, qui va tenter d'atterrir sur Mars. Il y a des États-Unis qui ont fait de même.
C'est très impressionnant. C'est vrai que la COVID efface tout. Il y a aussi, ben, on invite les gens à aller voir dans le journal, il y a 15 images marquantes là, qui relatent l'année 2020 là, que vous avez publiées. Là.
Oui, exactement. C'est des images qui n'auraient pas pu, pour la plupart, se dérouler une autre année et qui illustrent de façon rapide et très efficace les derniers mois assez particuliers que l'on a eu au Québec.
Bon, ben, on invite vraiment les gens à aller lire ça et voir ça sur le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci, Raphaël. Je te souhaite une belle année.
Ça fait plaisir, toi aussi.
Bye-bye. On parle avec Marianne Plamondon. Est-ce que, quand on revient de voyage, l'employeur est obligé d'accepter la quarantaine? À tout de suite.
Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité?
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Cette semaine, on voit toute l'histoire des voyageurs. Bon, ça fait beaucoup parler. Ben évidemment, d'un côté, c'est contradictoire ce qu'on a assisté parce que d'un côté, on nous demande au Québec, bon, de faire des sacrifices très difficiles, beaucoup de gens seuls, les gens ne peuvent pas fêter. Noël, on dira ce qu'on veut, c'est une fête très très importante dans notre société. Et on se rend compte, ça a été respecté en gros. Bonne nouvelle là-dessus, mais là, on apprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent surtout avoir le reportage du Journal de Montréal à l'effet que dans certains resorts, on respecte pas les règles. Tout ce beau monde-là revient. Beaucoup de questionnements. On demande des tests. Ces gens-là vont être obligés d'être en quarantaine pendant deux bonnes semaines. Ça fait quand même des longues vacances, là, si on part une semaine ou deux. Et quand on revient, là, c'est deux semaines. Il y a une portion, ben, on est en temps des fêtes, ça va bien. Mais au retour, peut-être que certains avaient mal prévu ça, mais ils vont devoir faire cette quarantaine-là et travailler. On se posait la question, avocat à la barre, qu'est-ce qui se passe avec l'employeur en lien avec ces quarantaines-là? Est-ce qu'il est obligé de l'accepter, la quarantaine? Est-ce qu'il peut congédier la personne si ça se présente pas le lundi au travail? Et on en parle avec Maître Marianne Plamondon, que vous connaissez, qui est spécialisée en droit du travail, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Encore des questions. On avait parlé l'autre fois des vaccins. Gros questionnement. Mais là, un autre bon questionnement. Qu'est-ce qui arrive avec les quarantaines et les employeurs? Est-ce que l'employeur est vraiment obligé de la respecter, de l'accepter, si on peut dire?
Bien, en fait, c'est l'équivalent d'un congé sans solde. Donc, il n'y a pas d'obligation comme telle pour l'employeur d'accepter un congé sans solde de 14 jours au retour. Donc, l'employeur peut demander à l'employé de rentrer au travail. Et s'il peut pas, compte tenu des règles gouvernementales au niveau fédéral, ben à ce moment-là, ça peut être vu comme une absence injustifiée et entraîner là, une gradation des sanctions. Maintenant, la plupart des employeurs, je ne crois pas, vont se rendre jusqu'à un congédiement pour ce motif-là. Mais c'est certain que les employeurs devraient s'informer auprès des employés puis demander aux employés de divulguer s'ils ont voyagé ou pas pendant la période des fêtes de façon à prendre les mesures pour sauvegarder la santé et sécurité de tous les travailleurs en milieu de travail qui, eux, auront respecté le confinement là, ici au Québec. Là.
OK. Mais on parle de gradation. Là. Je pense que vous pouvez peut-être nous réexpliquer un peu la règle là, de gradation versus cette erreur ou faute, je sais plus comment qu'on l'appelle, qui est tellement grave qu'on congédie sur le champ. Bon, c'est ma question à deux volets. C'est quoi cette histoire-là de gradation versus congédier sur le champ? Et aussi, est-ce que de pas se présenter en disant que je dois subir une quarantaine quand ça n'avait pas été annoncé, c'est assez grave pour le congédier sur le champ?
Ben, non, c'est pas assez grave, mais chose certaine, pour un employeur, ça peut causer des grosses complications, surtout qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs milieux. Veux pas, c'est difficile de trouver des travailleurs de remplacement. Et là, l'employé est parti dans le sud, on le savait pas, puis là, on se retrouve qu'il est pris à la maison pendant 14 jours, en quarantaine, peut pas travailler, donc on peut pas le remplacer, ça peut nuire à la production, au travail qui a été effectué. Et donc, l'employeur, lui, a le droit d'avoir la prestation de travail. Si l'employé avait annoncé deux semaines de congé ou une semaine de congé, la journée après son retour, il est supposé d'être au travail et c'est son obligation en vertu du contrat de travail d'être présent. Et donc, s'il n'est pas présent pour un motif qu'il n'avait pas annoncé à l'avance, ben à ce moment-là, oui, l'employeur va pouvoir commencer par un avis écrit suivi d'une suspension courte, une suspension plus longue. Et effectivement, si la personne a fait d'autres manquements ou a déjà un dossier disciplinaire chargé, on pourrait aller jusqu'au congédiement, mais dans ce cas-ci, je ne crois pas que ça va être le cas. On sait aussi qu'à l'heure actuelle, on est en pénurie de main-d'œuvre, donc les employeurs sont peut-être un petit peu plus smooth, là, comme on peut dire.
Ouais.
Mais cela dit, les employeurs, il y avait des employeurs qui avaient prévu le coup, hein. C'est pas là, ça a sorti des médias. Okay. Mais il y avait des employeurs qui avaient prévu le coup. Moi-même, là, j'ai rédigé là, pour certains employeurs avant les vacances des règles très claires, des politiques en lien avec le fait de se déplacer à l'étranger pendant les périodes de vacances. Et plusieurs employeurs ont demandé aux employés l'obligation de dénoncer s'ils quittaient le pays avant leurs vacances, de façon à ce que l'employeur puisse prévoir s'il y a une quarantaine et que l'employeur puisse dire oui ou non, je vais te permettre de prendre congé sans solde par la suite de 14 jours nécessaires. Comme ça, on n'arrive pas avec des faits accomplis. Donc, okay. Je pense que pour le prochain 6 mois, là, on le vit pour Noël, mais on va le vivre à part qu'on va le vivre. T'sais, on s'entend, on a la relâche aussi au Québec. Donc, un employeur qui est avisé devrait demander à ses employés de dénoncer lorsqu'il a quitté le pays, parce que c'est un risque après ça qui revient dans le milieu de travail et qui peut causer des problématiques dans le milieu de travail. Donc, l'employeur a le droit de poser des questions et d'avoir l'heure juste.
OK. Il a le droit de poser des questions. Il a le droit de demander à ce que ça soit dénoncé. Tu vas me voir venir avec ma prochaine question. Est-ce qu'il peut contrôler la vacance de quelqu'un, dire « tu ne pars pas en voyage parce que ça va affecter ta prestation au retour »
Ben, en fait, il peut dire tout simplement « je n'accorde pas le congé sans solde ». Le congé sans solde, c'est un droit de direction de l'accepter ou pas. Donc, l'employé, son obligation, c'est de rentrer au travail le jour à la fin de ses vacances. Si l'employeur refuse le congé sans solde de 2 semaines, ben si l'employé y va, ben là, il est en faute. Et veut pas, là, ça pourrait mener à un congédiement si l'employeur avait clairement dit « je ne te l'accorde pas, j'ai personne pour te remplacer, je peux pas faire le travail, ça peut causer une fermeture d'usine, par exemple ». Bien évidemment, l'employeur à ce moment-là a le droit là, de dire ben écoute, tu fais défaut à te présenter au travail, c'est l'obligation première de ton contrat de travail d'offrir ta prestation et tu n'es pas là, donc je mets un terme à ton emploi. Et l'autre chose aussi, le fait de dénoncer, ça assure aux employeurs de vérifier si la quarantaine a bel et bien les biens été faite. Parce qu'on veut pas, surtout pas, de gens qui se disent « Ah, ben là, surtout que là, il va y avoir le nouveau test là qu'ils vont demander. Ouais. » On veut surtout pas que l'employeur revienne « Ah, j'ai été testé négatif, donc je rentre au travail quand même. » Là, évidemment, pour l'employeur, là les risques sont énormes. Parce que si un employeur qui vit une éclosion à l'heure actuelle, là, c'est tous des gens qui font des demandes à la CNSST, division SST, qui demandent des indemnisations. Là. Imaginez comment ça peut faire exploser les coûts en matière de CSST y a des éclosions, là.
Mais est-ce que, parce que là, je comprends, l'employeur peut pas dire à quelqu'un « tu ne pars pas en voyage », ça serait trop, là, je veux dire, de contrôler sa vie privée. Là.
Tu peux pas contrôler ce que l'employé fait pendant ses vacances, mais tu peux contrôler les conséquences que ça a sur le milieu de travail. Donc, okay. Si ça fait en sorte que tu n'es pas capable de donner une prestation de travail à ton jour de retour et que j'ai pas d'obligation de te donner un congé sans solde, alors là, tu tombes en défaut en vertu de ton contrat de travail.
OK. Puis là, qu'est-ce qui arrive à un employeur qui dit « qui savait pas, c'est le cas, ben là, ils sont dans le trouble. Puis l'employé dit, ben non, moi, de toute manière, je rentre au travail, là, je ferai pas quarantaine, je vais aller travailler. Et que l'employeur accepte ça, il se met-tu dans le trouble ou? Il accepte que son employé fasse pas de quarantaine, dans le fond.
Ben là, premièrement, on s'entend que la loi sur la quarantaine au niveau fédéral s'applique, là. Donc là, c'est quelqu'un qui clairement, délibérément, va à l'encontre de la loi qui est très claire. Donc déjà là, l'employeur qui se rend complice de ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est clair que ça pourrait mener à des enquêtes de la CNSST en milieu de travail et à des plaintes pénales contre l'employeur qui s'expose à des pénalités là, en vertu de la loi pénale là, en matière de santé et sécurité au travail, parce que ça met en danger l'ensemble des travailleurs de son organisation. C'est grave, là.
OK. Et est-ce que dans le domaine, on appréhende des séquelles en lien avec ça? Je veux dire, des débats qu'il va y avoir devant les tribunaux?
Mais par rapport à ça, non. Je pense que les employeurs doivent mettre les règles au clair. Et comme je vous dis, moi, certains de mes clients, là, on a fait des avis, là. Si vous quittez durant l'hiver, voici la procédure. Vous devez aviser. Vous devez demander si c'est possible de prendre un congé. On a vraiment mis une procédure très claire comme là. Alors, à ce moment-là, les employés ne pouvaient pas dire qu'on le savait pas, là. Mm-hmm. Et rentrer, là, puis dire, ben là, je peux pas rentrer, je suis en quarantaine. Donc, il n'y avait pas de surprise. Je pense que les employeurs doivent prendre pour acquis. On est dans cette situation-là. On est pris là-dedans. Le COVID n'est pas pour partir avant. Probablement, on n'aura pas une amélioration de la situation, là. Tous les articles disent ou septembre. Donc, commencez à vous faire des politiques en lien avec la gestion du COVID pour avoir leur juste des employés, pas vous retrouver avec des faits accomplis des employés et là, pris à gérer là, par la gradation des sanctions. Vaut mieux prévenir et vaut mieux aussi avoir leur juste comme ça. Au moins, l'employeur prend une décision sachant là, si l'employé est allé à l'étranger ou pas. Là. Donc, c'est sûr qu'un employé qui ne le dit pas, qui est allé à l'étranger, qui rentre comme si de rien n'était, puis finalement, il infecte une multitude de personnes, ben écoutez, les conséquences pour l'employeur sont majeures au niveau financier aussi. Donc, les employeurs ont tout intérêt à demander leur juste de leurs employés. Puis les employés doivent collaborer et doivent donner l'information à leur employé, à leur employeur, pardon.
Bon, on sent que le conseil, c'est toute réserve, sans préjudice. Et une bonne communication peut peut-être éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. On le comprend bien dans votre propos. Mais c'est sûr que on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux dire, il reste que la petite PME peut être impactante encore plus gravement si il n'était pas avisé, vu qu'il n'y a peut-être pas les ressources nécessaires pour faire fonctionner son commerce. Si l'employé se présente pas, là.
C'est ça, exactement. Mais c'est sûr qu'un employé qui fait ça, qui décide d'aller à l'étranger, je pense qu'un employé devrait aviser l'employeur de façon à ce que l'employeur puisse décider si oui ou non il accepte le congé sans solde. C'est jamais une bonne idée pour un employé de mettre son employeur devant un fait accompli. Ah, oh, je peux pas rentrer, je suis en quarantaine, je suis vérifié par le fédéral. Ça marche pas comme stratégie de la part de l'employé. Et c'est jamais une stratégie gagnante.
C'est bon, on retient la leçon. Merci beaucoup, Maître Marianne Plamondon de chez Langlois, très éclairant. Bonne année et on se reparle en 2021.
Merci, bonne année.
Bye-bye. Restez avec nous parce que là, on s'en va dans les résolutions pour finir l'émission. Comment choisir nos résolutions et comment les tenir avec Patrice Ouellet, gestionnaire de haute performance. À tout de suite.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Avez-vous pris vos résolutions pour la prochaine année? Une année qui, sans doute, s'annonce meilleure que la 2020. Et la question, tiendrez-vous vos résolutions? Et on finit bien l'émission avec notre gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellet, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier.
Hey, merci. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et là, on veut des trucs pour prendre nos résolutions. Comment on fait?
Ah, écoutez, c'est toujours un moment crucial. Hein. C'est comme un moment charnière, un moment pivot. Et Dieu sait cette année comment est-ce qu'il y a des gens qui vont être heureux de tourner la page sur l'année 2020 pour tomber dans cette nouvelle année-là, 2021. Donc, on commence l'année comme avec un livre, mais qu'il n'y a rien d'écrit. Hein? Les pages sont blanches. On a encore la possibilité de transformer l'histoire qu'on va écrire pour 2021. Et, Maître Bernier, j'aimerais apporter une distinction importante pour nos auditeurs entre une résolution et un objectif.
Okay.
Est-ce que trop souvent, à ce moment-ci de l'année, les gens prennent des résolutions? Et une résolution, vous savez, c'est pris souvent dans ses pensées, dans son salon. Tout a l'air beau, tout est facile, avec des belles lunettes roses. Et entre cette résolution-là, qui est un peu une intention sans action, et un objectif, qui, lui, est beaucoup plus précis, plus spécifique, et surtout, Maître Bernier, il est écrit.
Okay.
Donc, il y a une différence fondamentale à faire entre les deux. Donc, le premier conseil que je donnerai aux gens, ça serait d'écrire vos objectifs. Écrivez vos objectifs pour 2021. Mm-hmm. Le temps passe tellement vite que ça vaut la peine de prendre une heure pour s'asseoir avec soi-même, faire le bilan, à le bilan de vos trois dernières années, pas juste la dernière année. Le 1er janvier 2018, vous étiez où? Comment était votre santé, vos finances, votre carrière, vos relations? Qu'est-ce qui a progressé dans votre vie? Ça va vous donner de la perspective et ça va, Maître Bernier, ça va vous éloigner un petit peu du COVID. Là.
Ouais.
On a passé l'année à parler de COVID et quand on s'éloigne sur trois ans, soudainement, on perd de vue le COVID un peu. On prend de la perspective. On est capable de voir que dans les derniers trois ans, il y a des parties de notre vie qui ont beaucoup progressé. Donc, c'est avec cette énergie-là qu'on va se mettre à bâtir 2021.
Mm-hmm. De plus, les bons coups que les mauvais, là.
Mais absolument. Les mauvais coups, écoutez, on dit toujours qu'on apprend toujours plus avec ses échecs, et c'est tout à fait vrai. Donc, si vous regardez les parties de votre vie qui ont moins bien été, Ben, la vraie question, c'est quelle leçon j'en tire? Quelles leçons avez-vous tirées? Comment vous allez utiliser ces leçons-là pour vous propulser en 2021?
OK. Et dans le fond, c'est de rendre ces résolutions qu'on prend et qu'on ne tient pas toujours en les mettant en objectif.
En objectif, et je vous dirais aussi, Maître Bernier, une autre erreur que je vois souvent, c'est que souvent les gens vont se mettre... prenez exemple dans le domaine de la santé. Hein. Dans la santé, beaucoup de gens commencent l'année et se disent « mais cette année, je vais perdre un peu de poids ». Ouais. Le problème avec cet objectif-là, c'est quand on devient spécifique, on va se mettre exemple, je veux perdre 10 kilos, je veux perdre 20 livres ou 10 livres, peu importe le chiffre, c'est qu'on se met à courir après un chiffre. Et l'être humain étant ce qu'il est, lorsqu'il tourne en mode haute performance, ben, il court après le chiffre. Ça veut dire qu'il est prêt à souffrir pour atteindre son chiffre. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se met à se priver. Et c'est le début de l'année, on est motivé, on accepte de se priver. Mais ce mode de vie-là, on peut pas le tenir à long terme.
Tiendra pas, ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien on atteint notre objectif rapidement, parce qu'on s'est privé beaucoup, ou on perd notre motivation. Alors, mon conseil, il est simple. Arrêtez de courir après un chiffre et regardez derrière le chiffre quelle est la saine habitude que je pourrais implanter qui pourrait transformer ma vie à long terme. Peut-être que là, je vais me mettre à regarder des régimes différents. Peut-être que je vais me focusser sur des plats spécifiques. Je vais peut-être éliminer certaines choses un certain nombre de jours par semaine. Ce qui fait que je vais développer des saines habitudes de vie derrière mes objectifs plutôt que de tout laisser tomber quand j'ai atteint mon chiffre précis ou encore de laisser tout tomber parce que l'aiguille ne bouge pas.
Oui. C'est un peu des hit and run, là. Des fois, on est trop motivé, mais ça tiendra pas longtemps, là.
Ça ne tient pas la route parce que derrière, souvent, ce qu'on se met en mode privation, on va se priver, c'est pas tenable à long terme. L'être humain n'est pas sur la terre pour se priver tout le temps. On est là pour avoir du plaisir. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir du plaisir en développant des saines habitudes de vie? Et lorsqu'on fait le bilan de ces trois dernières années, c'est là qu'on peut regarder. C'est vrai, dans les trois dernières années, mon alimentation, j'ai mis ça de côté. J'ai pris du poids. Plutôt que ce que j'appelle se flageller, là, puis se saboter, c'est de regarder derrière les mauvaises habitudes qu'on a prises, les mauvais plis qu'on a pris dans les trois dernières années, de regarder comment je peux rendre ça positif. Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais bien? Si je me regarde dans 3 ans, que je suis devant mon miroir, puis j'aime mon corps, puis parce que j'aime mon corps, je me présente devant des clients, je suis plus en confiance, j'ai un beau sourire. Soudainement, là, on se met en contact avec de l'énergie positive, plutôt que de se mettre en contact avec de l'énergie qui va nous saboter, qui va nous tirer vers le bas. Donc, soyez spécifique et focussez sur des habitudes comme objectif plutôt que des chiffres.
Ah, c'est bon. Puis de focusser sur des choses à faire au lieu de des choses à ne pas faire, peut-être. Au lieu de dire je mangerai pas du sucre, mais je vais dire je vais manger plus d'aliments sains, je sais pas, peut-être plus positif. Là.
Ben, écoutez, Maître Bernier, ce que vous dites là, c'est que vous êtes déjà vous-même, par vos questions, en train de réfléchir à comment y arriver. Et c'est là qu'il y a le plus de valeur. C'est dans la réflexion que vous allez faire. Est-ce que je peux diminuer certains types d'aliments? Est-ce que je peux en augmenter certains? Est-ce que je dois boire davantage? Prenons un autre exemple qui est très concret. Souvent, les gens, on le voit souvent, les gens disent, ben moi, j'aimerais ça courir un demi-marathon. Je vais commencer par ça. Et là, l'objectif, ben c'est une date précise. Les gens vont dire, ben je vais aller m'inscrire. 2 janvier, je m'en vais en ligne, je m'inscris Marathon de Québec. Demi-marathon. Donc là, vous courez après quoi? Vous courez après une date. Vous courez après un chiffre, vous courez après un événement. Et ce qui arrive, lorsqu'on court après ça, plutôt que de courir derrière le marathon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des saines habitudes de vie. C'est peut-être de courir 3 fois par semaine, et plutôt que courir après le marathon, c'est bien de l'avoir, l'objectif ou le demi-marathon, mais c'est de soutenir à long terme, de prendre plaisir à courir 3 fois par semaine. Alors, soudainement, votre objectif du marathon se transforme en une habitude de vie qui va vous permettre de vivre une vie de meilleure qualité, que ce soit par rapport à votre avec votre carrière, votre santé, vos finances, vos relations, style de vie, développement personnel. C'est les 6 grandes catégories de façon globale. Donc, ça permet aux gens de rester centrés sur des choses qui sont beaucoup plus réalistes.
Okay.
Et qui vont vous permettre aussi d'augmenter votre qualité de vie plutôt que de vous priver ou encore pousser la machine beaucoup trop fort. On ne peut pas être en séries éliminatoires à l'année longue.
C'est non, c'est ça. Puis c'est ce que je comprends aussi, c'est plus pas tellement, oui, il y a l'objectif, oui, il y a la résolution, mais il y a de focusser sur le plan aussi en arrière, la façon d'y arriver. C'est différent.
J'aime beaucoup Maître Bernier dire qu'il faut toujours tomber en amour avec le processus et non pas avec l'objectif. Et
si sinon, ça tient pas.
Ça tient pas. Et en plus, c'est que si vous tombez en amour avec courir 3 fois par semaine, ben là, vous avez un plan pour votre santé qui est tenable à long terme. Et le demi-marathon, exemple, en juin, c'est juste la cerise sur le sundae. Parce que vous venez de tomber en amour avec le processus qui vous a permis d'arriver à votre objectif.
Mmh. Très, très intéressant en cette fin d'année. Patrice Ouellette, j'invite les gens à aller sur ton site 48 heures par jour et de suivre ces recommandations, ce que je ferai. Et je te souhaite une très belle année à toi et ta famille. On se reparle en 2021.
Absolument, merci.
Merci, bye-bye. C'est tout pour mon suivi. Ben, j'ai tenu le fort pendant les fêtes, donc dernière émission. Nous, on va se retrouver en 2021, le samedi et le dimanche de 11h à midi. Et je vous souhaite une très belle année. Je vais dire comme mon père me dit souvent, « Salud, amor y dineros y mucho tiempo para gastarlos ». C'est un peu la philosophie de notre famille. Ce que ça veut dire, c'est santé, amour, prospérité et beaucoup de temps pour les déguster, très important. Et je vous souhaite une bonne année également à nos chroniqueurs, à toute l'équipe de Cube. Je remercie l'équipe durant le temps des fêtes là, qui m'ont soutenu. C'était très agréable. Achille Moinet à la mise en onde, Frédéric Moncol, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulay, tout le monde était là. Merci, on se retrouve en 2021. Bye-bye.
Cube Radio.